disparu dans le désert. Aujourd'hui, la police mauritanienne dit les avoir retrouvés 700 km plus au sud. Ils auraient traversé le Sénégal avant d'être arrêtés tôt ce matin dans un hôtel de Bissau.
En Guinée-Bissau, ils sont arrêtés. On les fait transférer encore en Mauritanie une fois que les Mauritaniens ont demandé l'extradition.
La Guinée-Bissau va payer très cher le fait d'avoir maltraité les combattants de Dieu. Faites attention, si j'avais une arme, je vous aurais déjà tous tués.
On n'en trouve que deux, il n'en manque un. On apprendra plus tard qu'il est resté au Sénégal. Et comme il apprend l'arrestation de ses amis, il est reparti par des moyens détournés.
Le mois de février, le mois de mars se passe et arrive le 2 avril. Et coup de tonnerre, Sidi Oultidna, un des deux arrêtés à Bissau, s'évade du tribunal de Nouakchott alors qu'il était présenté au juge d'instruction. Le service décide de projeter tout de suite une équipe avant qu'il rejoigne le Mali et on tisse la toile autour de Sidi Oultidna. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de lui, que son soutien logistique est très fort. On travaille avec les IMSI catcheurs et on localise la villa où il était. On est le 6 avril, donc évader le 2, localiser le 6, on est pas mal sur ce... On est assez performant, je pense, sur cette affaire. On décide d'encercler la villa avec une colonne de policiers mauritaniens et on est en tête de colonne pour les guider, pour dire voilà, c'est là, en faisant signe, voilà. Et au moment où on arrive devant la villa, une grosse fusillade est déclenchée avec un tir de lance-roquettes.
Nouakchott, Mauritania, the scene of a gun battle that lasted for hours on Monday. Another clash in North Africa between government security forces and a group of Islamic fighters suspected of belonging to Al-Qaïda in the Maghreb. At least one was killed.
Ben là, le véhicule de tête s'est fait tirer dessus et il s'est passé pas très très loin, quoi, juste à côté.
Using both small arms and vehicle-mounted weapons, they took their fight into the night. Among those holed up inside, they believed, was Al-Qaïda in the Maghreb member Sidi Oud Sidna.
Ça a duré un peu plus d'une heure cette affaire, suffisamment pour mettre Nouakchott quand même en émoi. Les Mauritaniens ne s'attendaient pas à voir ça au cœur de leur capitale, quoi. Ça a été une sidération, quoi.
After the fighting had ended, it was clear people had been staying in the house, but no bodies were found. Investigators discovered bomb-making material.
Et là, on a trouvé dans la maison qu'ils avaient quittée des explosifs, des détonateurs, et tout était prêt, quoi. Et des explosifs extrêmement instables. Donc, on était à quelques jours d'un attentat.
Dans la villa, on a trouvé une vidéo. Et là, on voit Marouf, donc le troisième, qui s'était échappé, et on le voit à Nouakchott. En revendiquant l'attentat d'Aleg et la préparation d'un autre attentat. On trouve des repérages sur le centre culturel qui était au sein du lycée français. Savoir comment on rentrait, où il y avait des gardes, où il y avait des ceci, où il y avait cela. Donc c'était vraiment un repérage qui était abouti.
Le troisième larron, qui n'avait pas été arrêté, qui avait fini par rejoindre le Mali, dont on avait perdu trace à ce moment-là, et qu'on a retrouvé à Nouakchott dans la cellule. Là, on a été servi quelque part par la chance, parce que cette évasion a déclenché une mobilisation incroyable des services mauritaniens et français, et qui permet le démantèlement de cette cellule.
Je suis revenu au service, un de mes responsables à l'époque m'a dit que j'étais allé trop loin, que j'avais pris des risques insensés. Je lui ai dit voilà, on a trouvé quand même des bonbonnes de gaz qui étaient destinées au centre culturel français à Nouakchott, qui est au milieu du lycée français. Est-ce que la vie d'un agent du service vaut la vie de plusieurs enfants du lycée français? Je vous pose la question, j'ai pas eu de réponse.
Thank you.
À l'entrée du service, vous avez une stèle où il y a chaque personnel du service qui est décédé a une petite marque à son nom. Il y a plus de 200 noms là. Ça rappelle au service qu'on peut aller jusqu'au bout.
Dans la cour de notre caserne, il y a un mémorial. Dans une époque de ma carrière, quand je recrutais un nouveau collaborateur, avant même de le recruter, on fait un entretien. Je l'ai mis de la fenêtre et je lui faisais voir ce mémorial et je lui disais, bon ben voilà, c'est pas ce qui doit arriver, mais ça peut arriver. C'est pas quelque chose dont on parle entre nous, mais ça fait partie du socle de l'engagement. C'est le niveau ultime de l'engagement, mais ça en fait partie. Mais heureusement, c'est pas fréquent, heureusement.
Tous les jours, car beaucoup de gens dans cette maison, à l'extérieur du territoire national, exposent leur vie dans le cadre de leur mission. Donc c'est une responsabilité qui est lourde, qu'il faut assumer, qui m'a été confiée et que j'exerce autant que je le peux.
Il y a des moments où j'étais inquiet, très inquiet. La DGSE, elle, opère de plus en plus dans les zones de guerre parce que le monde est de plus en plus en guerre. Quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez envoyé quelqu'un pour faire une action d'enseignement dont vous n'êtes pas si certain qu'elle est véritablement justifiée, oui, là, vous avez une inquiétude supplémentaire. Oui, j'ai vécu des moments comme ça. Oui.
Et effectivement, quand on te place avec un pick-up et quand il y a voilà, un nuage de fumée qui apparaît à l'horizon et qu'on est sur une zone frontalière dont on sait que précisément voilà, il y a un certain nombre de maquis djihadistes qui sont installés de l'autre côté de la frontière, ça crée assez rapidement une forme de tension. Alors tout ça est planifié. Quand on se porte sur la zone, on sait déjà que le risque est là, donc on sait comment y remédier, mais voilà, la sensation est là.
Une menace, c'est dynamique. À partir du moment où elle n'est pas entravée, elle vous menacera toujours. On fait du renseignement, le renseignement c'est du temps long, c'est une forme de track. On part d'un objectif qui est souvent un petit objectif, et puis on le remonte, on l'environne, et on essaie de travailler dessus.
Les trois membres du commando d'Aleg sont maintenant sous les verrous. Maintenant, ces individus ont eu un soutien logistique et des commanditeurs, et donc cette affaire n'est pas close.
Tous ceux qui sont impliqués dans les attentats ou les prises d'otages des ressortissants français feront l'objet d'une traque jusqu'à l'extinction d'un moyen. Ça nous amène à suivre des longues traques. Elles ne sont pas toujours conclusive, mais le plus souvent.
Un des leaders les plus médiatiques de l'époque, c'est Mokhtar Belmokhtar, qui avait sa propre stratégie sur place, qui avait lui-même impulsé la création du Mujahou, donc c'était un peu séparé d'Al-Qaïda à l'époque. Et il y a un vétéran DGIA et du GSPC qui s'appelle Yahya Djouadi, qui vient s'installer justement au Mali, et qui va, au nom de l'état-major d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, structurer les groupes. D'autres leaders historiques comme Yahya Aboulamam, qui ensuite deviendra l'émir du Sahel pour le compte d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Je veux envoyer un message à la France et à l'Allemagne et à tous les Français. Nous leur disons que les frères s'éloignent de la ville pour qu'ils reviennent avec force, avec l'aide d'Allah. Et nous leur disons qu'il a ouvert une porte de la porte de Jahim pour les Français.
C'est quelques dizaines d'individus répartis en plusieurs groupes qui sont sur des pick-up et qui sillonnent le désert et qu'on connaît en fait assez bien à l'époque grâce au travail long terme qui a été fait dessus.
Ces cibles dites à haute valeur ajoutée étaient prioritairement traitées par la DGSE et nous étions menants sur cette quête-là. Notre segment, c'était justement pour des raisons de neutralisation de la capacité à créer la menace de taper par le haut. Comme tout individu, le djihadiste, il doit bouger, il doit communiquer et il doit payer. C'est les trois fonctions sur lesquelles on peut agir en renseignement technique comme humain.
Euh,
De ce que je sache, oui, je suis le plus jeune dans un centre de mission. Souvent, on me fait la blague, oui, de « Ah tiens, t'es né après le 11 septembre, haha, voilà. » Non, moi, on fait des petites blagues par rapport à mon âge, mais de toute manière, je le prends pas mal. Tout est bon enfant, et on se passe tout. On m'a ciblé une zone où on m'a ciblé certains individus. Et on m'a dit, tu vas les surveiller techniquement et faire remonter tout ce qui est anormal, qui nous permettra de faire du renseignement et de prendre certaines décisions. Ce que j'étudie plus, c'est comment ça a été envoyé, qui l'a envoyé, ce genre de choses, plutôt que le contenu en lui-même. J'essaye d'établir des relations entre certaines personnes, des localisations, des patterns de vie. À force de suivre ces personnes-là, oui, on commence à connaître leur famille, leurs déplacements réguliers, leurs contacts, ce genre de choses. Mais s'il y avait des liens entre divers groupes, s'il y avait des attentats qui devaient se préparer, s'il y avait qu'importe, quelconque événement grave ou non, on serait amené à le voir.
Ils peuvent parler du beau temps, du mauvais temps, de la pluie, de la sécheresse, mais ils parlent aussi de préparer telle ou telle action. On a des audios, des enregistrements, et après on voit que c'est tel numéro, et on commence à écouter. Si on a un nouveau numéro, je vais entendre, je vais dire, là, ça me dit quelque chose, par le rire, par l'éthique de langage, par l'accent, c'est le caractère d'expertise, de savoir qui parle et avec qui il parle.
La technologie, les moyens d'observation, les moyens d'écoute sont clés, mais si vous n'avez pas la source qui vous amène sur le clic, qui vous explique ce qui va se passer, qui a rendez-vous avec qui, eh bien, vous préparez tout le temps, mais vous n'êtes jamais en situation de frapper, quoi.
Qui mieux que les populations arabes ou Touareg du nord du Mali pour bien comprendre comment ça fonctionne et pour évoluer sur zone de manière naturelle. Et c'est notamment vers ces gens-là qu'on a investi pour avoir des gens sur le terrain capables de rendre compte de leurs activités au plus près, au-delà de ce qu'on peut observer depuis le ciel ou de ce qu'on peut entendre. Parfois, on a besoin juste de quelqu'un qui vend des puces téléphoniques à côté du bon puits dans une partie du Sahel, parce qu'il a un prétexte naturel pour être là, parce qu'il voyage régulièrement, donc on peut le voir, et donc on peut le discuter avec lui, le traiter. Il est peut-être au bon endroit sur des points de passage où des djihadistes passent.
Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes.
Au Sahel, justement, on était en position, on avait créé un maillage. Les armées sont arrivées avec Serval, puis Barkhane, puis les forces spéciales. Tout ça a créé un écosystème qui permettait à la DGSE d'utiliser son renseignement, de le finaliser sur une action réalisée par les forces armées. Et en effet, il y a les opérations où, pas forcément quand ils décrochent que ça frappe, mais c'est dans les 3 minutes, 5 minutes. Mais c'est des opérations extrêmement complexes qu'on a pu monter pour des cibles extrêmement importantes.
Mokhtar Belmokhtar, le djihadiste algérien responsable de nombreux attentats dans la zone du Sahel, de nombreux enlèvements aussi, aurait été tué par une frappe aérienne française.
Belmokhtar, il a 12 ans à nous échapper. Ben, il était très fort. Moi, je peux vous assurer qu'il a joué sur les frontières. Il a joué sur la distance. Et on a mis du temps à avoir les moyens d'investigation et de recueil et de traitement d'informations au nord-nord du Mali. Mais il a été neutralisé en Libye. Voilà. Donc c'est pour nous quand même un résultat opérationnel majeur.
Et sur renseignement français, on peut le dire ?
Sur renseignement français, oui.
Abdelmalek Dondal aurait été tué au Mali avec plusieurs de ses collaborateurs mercredi au nord-ouest de Tessalit, près de la frontière algérienne.
Même chose pour Dondal ?
quelques renseignements français aussi.
L'état-major français annonce aujourd'hui la mort d'un haut cadre algérien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Absolument, donc c'est un cadre assez important d'ACMI, et c'est Yahya Jawadi, c'est... Donc, il est de nationalité algérienne, comme vous l'avez dit.
Le service a donné les renseignements qui ont conduit à l'élimination de Yahya Jawadi, donc qui était le commanditaire, le donneur d'ordre, en 2022.
Il y a un côté exemplarité. Il faut que ça soit connu que les Français, ça sera sanctionné. Un jour. Peut-être pas le jour même, mais un jour.
Il ne s'agit en aucun cas d'une vengeance d'État. Il s'agit d'une mémoire longue pour effectivement faire en sorte que les actions ne restent pas impunies ou pour faire en sorte que les mouvements terroristes ne puissent pas continuer à poursuivre leur sinistre projet.
Au fait, la vengeance, est, enfin, dans mon acception, c'est... Il y a un côté irrationnel, émotif. C'est pas du tout la vocation de la DGSE. On travaille pour les intérêts de notre pays, sur ordre de nos autorités, on ne se venge pas.
Bon, j'ai envie de dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. Oui, ça a eu une influence, mais si Gaïa, il n'y a pas tout un système qui se met en place pour remplacer, ça n'a un effet que dans le court terme. L'histoire du terrorisme syrien, comme celui de l'Afghanistan, comme dans Syriac, c'est que la reconstitution est plus rapide que la neutralisation. Donc, si vous le faites tout seul, si c'est dans des zones où vous n'avez pas d'appui économique, humanitaire, santé, l'état de droit quoi, ne peut pas se restaurer, c'est très difficile. Et la situation actuelle nous montre, on est dans les impasses. On a des succès opérationnels, mais on ne gagne pas le territoire.
On était condamné sur la période à repousser les djihadistes pour les voir revenir dans ces mêmes zones, dans une certaine mesure. Et donc le débat, il est plus large, peut-être, sans doute même, que l'action de renseignement ou l'action militaire. Il est de comment les pays de la zone sont capables de se construire pour, encore une fois, faire face eux-mêmes à cette menace djihadiste.
Il y a toujours besoin de monitorer cette menace par du renseignement sur les intentions d'acteurs qui vont redevenir clandestins. Et on a encore des tentatives d'opérations en Europe et en France. Donc oui, il faut rester extrêmement vigilant. C'est pas parce qu'on a d'autres problèmes que celui-là a disparu.
Au moment du déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la DGSE avait les mêmes renseignements techniques que ses partenaires américains. Le problème du renseignement ensuite, c'est l'exploitation que vous en faites, l'analyse que vous en tirez, et au fond, la manière dont vous considérez ou non qu'un événement va se passer.
We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days.
And do you have any indication about whether President Putin has made a decision on whether to invade? Do you feel confident that he hasn't made that decision already?
As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that.
La CIA avait fait le choix, tout à fait respectable, au fond de divulguer le renseignement qu'elle avait, avec comme objectif de dissuader les Russes de lancer leur opération. C'est une politique que nous n'avons pas. Mais en termes de renseignement, nous étions au même niveau de connaissance. Pour dire les choses simplement, personne n'avait dans l'entourage du président Poutine celui qui a accès à son logiciel personnel.
Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня.
Allah, 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 All constitution est suspendue. Le gouvernement est dissous. L'Assemblée législative de transition est dissoute. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Une crise n'en chasse pas une autre. Le Sahel, c'est pas réglé. Bon, effectivement, il y a cette crise en Ukraine. Il y a d'autres crises latentes. On connaît encore plus à l'Est.
Que soit en fait la forme des conflits, la DGS a son rôle à jouer. Ça pourrait être le soutien des forces armées d'un pays contre un autre.
Il y a des zones très reculées, on en verra plus facilement un agent opérationnel capable de s'auto-défendre, de s'auto-exfiltrer et de renseigner.
La DGSE s'interdit aucune zone. Après, il y a des zones qui sont beaucoup plus faciles à intervenir d'un point de vue diplomatique et revendicables d'un point de vue diplomatique que d'autres.
L'arc de Christ s'est embusqué sur des portes.
Malheureusement, l'arc de crise traditionnel, qui est voilà, le monde arabe, l'Afrique, le Proche-Moyen-Orient, l'Asie, reste encore une zone en ébullition.